Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes en partenariat avec BFM. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Elsa Franz. Vous écoutez et vous regardez le 106e épisode de Quid Juris. Cette semaine, l'actualité, c'est encore et toujours le détroit d'Ormuz, le conflit au Moyen-Orient. Alors, blocus iranien contre blocus américain, détroit fermé, puis ouvert, puis refermé par les Iraniens qui n'ont pas hésité à viser un navire. La marine américaine qui n'hésite pas non plus à viser, puis à saisir un navire iranien en provenance de Chine et de Malaisie. Tout ça avec les conséquences que l'on sait évidemment sur l'économie mondiale, mais également sur le prix de l'essence à la pompe, puisque pas moins de 20% du pétrole transite par ce détroit. Les Iraniens ont compris qu'ils jouissaient là d'un levier stratégique asymétrique, disent les militaires. Mais que dit le droit international, singulièrement le droit de la mer? Bonjour Niki Aloupi.
Bonjour Laurent.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Quid Juris. Vous êtes professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes aussi la directrice de l'Institut des hautes études internationales, membre du comité éditorial du Club des juristes et donc une des meilleures expertes de ces sujets. On a 30 minutes, Niki Aloupi, pour essayer de tout comprendre sur ce qui se passe, ce qui se joue dans le détroit d'Ormuz. Alors, je vais repartir depuis le début. Avant les hostilités, il y avait environ 120 navires, des tankers, des porte-containers, des pétroliers qui franchissaient dans un sens ou l'autre ce fameux détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, ce sont des milliers de navires qui sont à l'arrêt, soit dans le golfe Persique pour en sortir, soit dans le golfe d'Oman pour y entrer. Or, la liberté de navigation, c'est un principe fondamental du droit international. Première question, elle est toute simple, c'est quoi le droit qui est censé s'appliquer dans ce fameux détroit d'Ormuz?
Alors, elle n'est pas toute simple, mais c'est une très bonne question. Elle n'est pas toute simple parce que le droit applicable dans ces détroits d'Ormuz n'est pas un seul droit applicable, puisque cela dépend de si on applique la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, la Convention de 1982, un accord spécial ou tout simplement les droits coutumiers. Les deux possibilités existent et en l'espèce, pour les détroits d'Ormuz, les deux coexistent.
Alors comment on peut faire coexister les deux? Parce que dans ce détroit, ou plus exactement dans ce golfe Persique, il y a des eaux territoriales iraniennes, il y a des eaux territoriales omanaises. Oman est juste en face de l'Iran. Qui a décidé de quel droit s'appliquait à cet endroit?
Alors, tout à fait, c'est précisément toute la complexité de la chose, puisque Oman est partie à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, donc la partie omanaise, dans la mesure où elle appartient au territoire de l'Oman, parce que c'est la mer territoriale de l'Oman, relève du champ d'application de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer.
Mais l'Iran n'a pas signé.
Mais l'Iran n'a pas signé, n'a pas ratifié. D'ailleurs, les États-Unis non plus, les Émirats non plus. Donc, la plupart des États impliqués dans les incidents relatifs au détroit d'Ormuz ne sont pas partis à la Convention.
Alors, il y a deux droits qui s'appliquent, puisqu'il y a un État qui a signé cet accord et pas l'autre. Et en même temps, les deux États ont signé un traité en 1975 pour organiser ensemble le transit à l'intérieur de ce golfe Persique et singulièrement au moment du passage du détroit d'Ormuz.
Oui, alors deux remarques. D'abord, les droits coutumiers et les droits conventionnels ne sont pas nécessairement deux droits parce que très souvent, les droits conventionnels codifient les droits coutumiers ou les droits conventionnels deviennent de droits coutumiers et donc étant que source de droit, c'est différent, mais finalement, la règle applicable est la même. J'y reviendrai. Deuxième chose, l'accord, effectivement, de 1975 entre l'Oman et l'Iran, c'est un accord sur la surveillance du transit, du droit de passage en transit dans les détroits.
C'est ce qu'on appelle le transit inoffensif, c'est ça? En gros, ces navires doivent passer tranquillement sans que personne gêne leur navigation.
Continuer rapide, oui. Les passages inoffensifs, c'est véritablement très similaire au droit des passages en transit, mais ce sont deux notions différentes. Les droits des passages inoffensifs s'appliquent dans une mer territoriale. Les droits des passages en transit s'appliquent dans un détroit international. Les droits de passage inoffensifs s'appliquent également dans les détroits qui ne relèvent pas du champ d'application de ceux auxquels les droits de passage en transit, qui est encore plus libéral quant à la navigation, s'appliquent. L'accord des 75, je voulais juste dire qu'il n'est pas un accord dérogatoire à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, qui prévoit que les accords de longue date et toujours en vigueur peuvent déroger à ces règles quant au détroit, mais cet accord des 75, il n'est pas dérogatoire, il est plutôt complémentaire à la Convention, donc il coexiste avec la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer.
Juste pour bien comprendre et pour permettre à ceux qui nous regardent et nous écoutent de bien comprendre, quand vous parlez de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, vous faites référence au traité de Montego Bay, c'est ça, en Jamaïque, de 1982.
Oui.
Ce fameux traité qui codifie donc ce droit-là et que certains États ont signé, d'autres pas, et notamment dans cette région.
Alors, certains États, 170 États, 171 parties avec l'Union européenne, donc un traité largement universel, un traité qui est considéré aujourd'hui comme la constitution de l'océan, donc vraiment le cadre juridique en droit de la mer, mais qui effectivement, des États clés dans la communauté internationale n'ont pas signé, n'ont pas ratifié, dont les États-Unis d'Amérique, dont l'Iran.
Alors, on a bien compris, vous adressez le cadre, il y a la Convention des Nations Unies, il y a le droit coutumier. Là, on va rentrer dans l'actualité, parce que là, c'est très difficile à suivre. Il y a d'abord ce fameux blocus iranien. En réponse à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël, c'était le 28 février dernier, l'Iran a donc dégainé sa carte maîtresse, le blocage, je dis bien blocage, du détroit d'Ormuz. On verra pourquoi blocage et blocus, c'est pas la même chose. Donc, blocage du détroit d'Ormuz, applicable à tous les navires dits hostiles. Question toute simple, est-ce que ça, c'est conforme ou à la convention à laquelle vous faisiez référence ou au droit coutumier?
Non, ni à l'un ni à l'autre. Et la réponse, elle est simple. Et donc, autant en profiter parce qu'on n'a pas souvent des réponses simples en droit international.
Ça, je ne vous le fais pas dire.
Donc, celle-ci, elle est. Et non, ce n'est pas conforme, ni à l'un ni à l'autre. Et à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, les droits de passage en transit, il est extrêmement important, extrêmement central et il ne peut pas être suspendu. Et les droits de passage inoffensifs, lorsqu'il est applicable dans les détroits internationaux, il ne peut pas être suspendu non plus.
D'accord.
Il peut l'être dans une mer territoriale et encore de manière non discriminatoire et pour des raisons de sécurité de l'État uniquement, mais pas dans un détroit.
Donc, pardonnez-moi pour bien comprendre, l'Iran aurait pu bloquer le passage des navires, mais dans ses eaux territoriales uniquement, pas sur l'ensemble des eaux du détroit.
Même dans sa mer territoriale, en dehors du détroit d'Ormuz. Dans le détroit d'Ormuz, dans la mesure où on est dans un détroit international.
Ce qui est une règle particulière dans le détroit.
Exactement, qu'il s'agisse du droit des passages en transit, ou à condition même, à supposer même qu'il n'est pas complètement coutumier du droit des passages inoffensifs dans un détroit, ni l'un ni l'autre ne sont susceptibles d'être suspendus par l'État.
Et c'est là où il faut que vous nous expliquiez la différence entre blocage et blocus. On va aborder dans un instant le blocus naval proposé par les États-Unis, mais là, les Iraniens ont bien parlé de blocage du détroit d'Ormuz, et ça, pour le coup, c'est pas codifié.
Non, ça n'a pas besoin de l'être parce que ce n'est pas...
C'est interdit.
C'est interdit par les droits conventionnels, mais également par les droits coutumiers, parce que je disais tout à l'heure que les deux ne sont pas nécessairement différents, mais dans les règles de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer à propos des détroits, on peut considérer que toutes ne sont pas coutumières. Les droits de passage en transit, il est. Il représente les droits coutumiers, il reflète les droits coutumiers. Donc, les droits de passage en transit ne peuvent pas être suspendus par les États riverains, même s'ils ne sont pas partis à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer.
C'est extrêmement clair. Téhéran a quand même précisé que ce blocage ne s'adressait qu'aux navires battant pavillon de pays hostiles. Donc, on se dit les pays hostiles pour l'Iran, c'est les États-Unis, c'est Israël, mais on se rend compte en réalité que c'est beaucoup plus large que ça concerne les bateaux battant pavillon des pays du Golfe, même de pays européens qui viennent en soutien défensif aux pays du Golfe. Donc, en fait, les navires hostiles, c'est quasiment tout le monde, sauf ce qui n'est pas iranien et peut-être asiatique.
Et quand bien même, oui. Et quand bien même ça représentait véritablement une liste des pays hostiles et donc on basculait en raisonnement tant des guerres et non pas tant des paix pour ce qui est du blocage du détroit, il est prévu qui est également en temps de guerre, le droit des passages en transit des mers et il ne peut pas être suspendu par les États belligérants.
Et c'est pour ça que je parlais en introduction de guerre asymétrique. Comme l'Iran ne peut pas faire face aux États-Unis en termes militaires, ils ont choisi cet instrument-là qui est en dehors du droit, mais qui représente un levier important. Alors, à ce levier, à ce blocage décidé par les Iraniens, les Américains ont répondu par leur propre blocus, pour le coup. Un blocus naval, et là, pour le coup, un vrai blocus avec une quinzaine de navires de guerre, 10 000 soldats, une centaine d'avions. Je me trompe peut-être, mais j'ai envie de parler de barrages filtrants. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, c'est très codifié, un blocus naval. Ce n'est pas, contrairement à ce que disent les Iraniens, un acte de piraterie. C'est vraiment un acte de guerre codifié par les textes, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. Alors, pas par des textes juridiquement contraignants, c'est codifié dans les manuels de Saint-Raymond de 1994 à propos des conflits, du conflit naval, mais ça remonte en réalité à beaucoup plus loin. Il y a déjà une déclaration de l'ordre de 1856, dont les règles d'ailleurs sont reprises par les manuels de Saint-Raymond, qui codifient les blocus navals. Et ces deux textes ne sont pas juridiquement contraignants, mais ils reflètent les droits coutumiers, encore une fois. Et donc, les règles juridiquement contraignantes qui s'appliquent en l'espèce, c'est celle du droit coutumier.
Alors, je suis allé le voir, moi, ce manuel de Sanremo, 1994, il y a une quinzaine d'articles environ qui décrivent par le menu ce qu'on a le droit de faire dans un blocus naval et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, le blocus, il doit être déclaré, notifié, il doit préciser à quelle durée, à qui il s'applique. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est pour ça que je parlais de barrage filtrant, parce que visiblement, un blocus ne doit pas affamer les populations civiles et il ne doit pas interdire l'accès aux biens essentiels. Donc, en fait, les Américains sont en train de faire un barrage filtrant. Il y a des bateaux qu'ils laissent passer et d'autres qu'ils interceptent, voire qu'ils arraisonnent.
Oui, c'est d'autant plus problématique que les blocus navals, parmi les différentes règles dont vous parlez, qui justement l'encadrent très précisément en temps des conflits armés, il y a la règle de la non-discrimination par rapport au pavillon. C'est-à-dire qu'un blocus naval doit s'appliquer de manière non discriminatoire à tous les pavillons, donc à tous les navires de tous les États.
C'est ce qu'a dit le CENTCOM, d'ailleurs, le centre de commandement américain, au moment où ce blocus naval a été décidé, puisqu'ils disent que le blocus sera appliqué de manière impartiale à l'ensemble des navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens. C'est en fait, le discriminant, c'est soit d'aller dans un port iranien, soit d'en venir, quel que soit le pavillon de ce bateau.
Exactement. Et c'est pour ça aussi que vous l'avez très bien fait, Laurent, de distinguer entre blocage du détroit et blocus naval. Ce sont deux institutions, enfin, la première
est de toute manière
des notions complètement différentes qui concernent des situations complètement différentes. Les blocus navals, en réalité, il est indépendant de toute question de détroit. C'est par rapport aux entrées et aux sorties des ports. Et dans les mêmes manuels de Saint-Raymond qui codifient les blocus navals, il y a toute une partie détroits internationaux en temps de conflits armés, qui précise que rien n'est change par rapport aux règles qui s'appliquent en temps de paix. Donc, tout ce qui est droit de passage en transit des mers en temps de guerre.
Bon, alors, c'est là où on rentre dans la difficulté, parce que vous le dites très justement, c'est un acte de guerre, un blocus naval codifié, on vient de le voir. Mais alors, pourquoi du coup prendre un acte de guerre alors qu'on est en période de cessez-le-feu? C'est juste un instrument pour peser sur les futures négociations. C'est une réponse à cet acte qui, lui, n'est pas un acte de guerre, le fameux blocage par les Iraniens du détroit d'Ormuz. C'est bizarre, hein, un acte de guerre pendant un cessez-le-feu?
Oui, après, il faut voir si on considère que le cessez-le-feu met fin à la période du conflit armé où on se considère globalement encore en période de conflit armé qui est provisoirement suspendu.
Je dis que c'est bizarre parce que le navire auquel je faisais référence, ce fameux navire intercepté par les Américains en ont largement fait la communication, où on entend même le patron du navire, du destroyer américain, parler au commandant du navire qui ne veut pas s'exécuter, le destroyer va jusqu'à tirer dans l'eau, puis tirer sur le bateau pour l'obliger à s'arrêter. Donc, on est en cessez-le-feu, mais on tire quand même pour faire respecter le blocus naval. D'où ma question.
Après, il y a toutes les hostilités qui relèvent du conflit armé, et puis il y a aussi des usages des forces en mer, usages des forces qui peuvent être dans d'autres cadres, comme les pouvoirs de police ou des pouvoirs d'exécution d'exécution des pouvoirs opérationnels en mer, mais en toute hypothèse, on n'est pas ici dans un cadre où l'usage des forces en mer est autorisé, soit par les droits de la mer, soit par les jus in bello, donc les droits du conflit armé.
Alors, pour que ceux qui nous regardent et nous écoutent comprennent bien, le blocage iranien dont on parlait, il est à l'intérieur du Golfe Persique avant la sortie, donc avant le détroit d'Ormuz, alors que le blocus naval américain, il est loin du détroit d'Ormuz, il est à 400 km du détroit d'Ormuz, il est même à la sortie du Golfe d'Oman, quasiment au début de la mer d'Arabie, et là, question, on vient de découvrir que ce blocus, il pouvait aller jusqu'à intercepter des navires qui ont largement dépassé cette zone, jusque dans l'océan Indien. On a découvert que les Américains sont allés intercepter un bateau qui était au large du Sri Lanka. Donc ça veut dire que le blocus naval, il ne concerne pas juste cette zone, il peut aller beaucoup plus loin.
Mais normalement, non. Et encore une fois, l'objectif du blocus naval étant que, comme vous le disiez, manœuvre des guerres licites, il a un objectif très précis, c'est les entrées et les sorties du port de l'État belligérant. Et c'est tout. Donc, dès qu'on dépasse ces cadres-là, on sort du cadre juridiquement autorisé.
Même si le bateau qui a été arraisonné au large du Sri Lanka était passé ou provenait d'un port iranien ?
Alors après, ça devient justement une question d'interprétation. Des questions de précédents, qu'est-ce qu'on a comme précédent, quelles sont les justifications et dans quelle mesure l'État qui procède à cet arraisonnement va utiliser des interprétations du droit de la guerre ou du droit de la mer. Il y a je pense à, par exemple à la haute poursuite en droit de la mer qui est même indépendante, qui s'applique aussi en temps de paix, autorise un arraisonnement très loin, en haute mer, lorsque l'incident, les faits, la violation a commencé dans les eaux territoriales. On pourrait, par analogie, imaginer des arguments où si l'incident commence par violation d'un blocus naval, on peut continuer la poursuite jusqu'à beaucoup plus loin, mais ça va relever des interprétations plus ou moins novatrices du droit international.
Alors, Niki Aloupi, depuis que je sais que je vais vous recevoir dans ce podcast, je lis tout ce qui passe sur le détroit d'Ormuz.
Moi aussi.
Mais je suis en train de découvrir des choses que j'ignorais. Parce qu'il y a le droit de la mer, et puis il y a ce qui se passe dans la réalité en termes de navigation. Et là, on découvre qu'il y a des navires qui changent de nom et de pavillon tous les jours, qui coupent leur transpondeur. J'ai même découvert un terme, on parle de spoofing, c'est ça, d'usurpation d'identité. On a même des navires sous sanction. Là, on parle carrément de flotte fantôme, c'est-à-dire ces bateaux qui transportent, par exemple, du pétrole russe sous embargo, sous sanction. C'est quand même très bizarre. Donc il y a le droit, et puis il y a tous ceux qui passent leur vie à contourner le droit, en fait.
Les droits de la mer, c'est un droit très ancien et très codifié. Et la plupart des questions que vous vous posez en lisant ces phénomènes des différentes réalités ont en réalité des réponses juridiques. Qu'il s'agisse des flottes fantômes, qu'il existe des différents pouvoirs qu'on peut exercer en mer pour arraisonner des navires, qu'il s'agisse des raisons pour lesquelles, des motifs juridiques pour lesquels on peut arraisonner un navire. Et donc, ce n'est pas que le droit de la mer ne régit pas ces situations. C'est qu'après, comme dans tout droit, et a fortiori dans les droits internationaux, on peut ignorer ou contourner les droits, mais les droits existent.
Il y a le droit et il y a des contrevenants. Alors, c'est intéressant parce que, je le disais, il y a le blocage iranien. Là, on est dans le détroit d'Ormuz. Il y a le blocus naval américain. Et en réponse à ce blocus naval, les Iraniens menacent d'aller bloquer, cette fois-ci, non plus le détroit d'Ormuz, mais le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, cette fois-ci, on est loin du golfe Persique. Là, ce seraient les Houthis, donc des milices proches de l'Iran, qui iraient frapper, viser des navires commerciaux dans ce détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce que là, on parle d'actes de guerre, ou là encore, c'est totalement en dehors des clous du droit international ?
En droit international, il y a de peu nombreux cas dans lesquels il est autorisé de violer le droit international parce que cela répond à une violation du droit international antérieur. Il s'agit des contre-mesures, donc des faits illicites, enfin qui seraient illicites, sauf qu'ils répondent à un fait illicite antérieur et donc dès ces faits, ils peuvent être adoptés. Il s'agit bien sûr, si on parle de droit impératif, de la légitime défense, qui est un recours à la force, mais qui devient illicite parce qu'il répond à un recours intérieur illicite à la force. Et il s'agit en droit de traité de la violation d'un traité lorsque l'autre État, pour une obligation réciproque, l'a déjà violé. Quand on sort de ces cas très spécifiques où un État est autorisé à violer le droit international pour faire face à une violation intérieure dont il a été létalisé, on est en violation du droit international.
Si on est en situation de légitime défense, de riposte, on est quand même en train de violer le droit international, quoi qu'il arrive.
Pas quoi qu'il arrive, mais ça dépend justement des limites de la légitime défense et de ce qu'on peut faire dans le cadre de l'estime défense, de la même manière que les contre-mesures qui ne peuvent pas justement être des représailles, donc qui ne peuvent pas utiliser la force, ne peuvent pas être déployées sans conditions et sans encadrement juridique. Par ailleurs, en droit de la mer, l'usage de la force et le pouvoir de police en haute mer, c'est très strictement encadré. Donc, soit on est dans un des cadres pour lesquels un État, n'importe quel État ou certains États, peut déployer la force en mer, soit on ne l'est pas, et dans ces cas, tout est en dehors du droit.
Bon, tout ça est extrêmement clair. On a défini le contexte de ce qui se passe. On a tous, évidemment, les yeux rivés vers ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Sauf qu'il y a des négociations qui ont commencé entre Iraniens et Américains. Et de ces négociations, eh bien, peuvent sortir des conséquences qui auront des effets bien au-delà du détroit d'Ormuz. C'est la deuxième partie de Coup de Juris.
Laurent Neumann reçoit la professeure Niki Aloupi.
Niki Aloupi, je voudrais qu'on dépasse le détroit d'Ormuz. D'abord, une question. J'ai l'impression quand même que les mers sont de moins en moins des espaces ouverts, de plus en plus des territoires comme les autres, des territoires que les États cherchent à contrôler pour des raisons commerciales, pas seulement d'ailleurs en temps de guerre. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est la réalité de ce qu'on est en train de vivre en réalité ?
Vous parlez à un juriste, donc à moins que le droit international évolue dans ces sens, je vous dirais que c'est une vue de l'esprit. Ou en tout cas, une analyse...
Non, mais quand je vois, par exemple, que la Chine est en train de revendiquer la quasi-totalité de la mer de Chine, que Trump veut s'attribuer le Groenland...
Oui, mais là, je vais vous répondre qu'il y a une sentence arbitrale de 2016 pour la mer de Chine méridionale qui répond très clairement aux revendications chinoises, ou en tout cas assez clairement, et on sait qu'elles ne sont pas conformes au droit international.
Et il y a des règles pour le Groenland, vous étiez venu nous en parler. Alors, je disais, les négociations sont en cours entre Iraniens et Américains. Ce qu'on comprend, c'est qu'elles vont durer extrêmement longtemps, mais de l'issue de ces négociations peuvent sortir de très lourdes conséquences. Je vais prendre un exemple, ce fameux droit de péage que les Iraniens veulent imposer pour franchir le détroit d'Ormuz. On parle de 2 millions de dollars par porte-container ou par tanker. Ce serait un renversement absolu des usages maritimes si on en arrivait là.
Oui, et il faut se poser la question, parce qu'il faut toujours revenir au droit. Est-ce que le droit prévoit ? Est-ce que de tels péages peuvent encore être considérés comme compatibles avec les principes du droit ? Il y en a les Dardanelles où on paye uniquement pour tout ce qui est gestion justement du transit et de la navigation. Il n'y a pas effectivement de précédent.
Alors certains objets qu'on paye par exemple pour passer le canal de Panama, le canal de Suez.
Mais le canal, c'est artificiel et ce n'est pas la même...
C'est pas un détroit
international dans le sens du droit coutumier et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par rapport aux détroits internationaux.
Donc, je vais au-delà de votre réponse. Si ce péage finissait par sortir de ces négociations, si visiblement, Américains et Iraniens se mettaient d'accord, les Iraniens disent on veut faire payer pour reconstruire tout ce qui a été détruit par les bombardements. Mais ça risque de faire jurisprudence dans d'autres détroits. Je pense au détroit de Gibraltar, je pense au détroit de Malacca. Il y a plein de détroits où des États riverains pourraient se dire « Attendez, si on le fait dans le détroit d'Ormuz, je vais le faire aussi ».
Les droits internationaux, c'est une très bonne remarque, mais la réponse est que les droits internationaux sont justement les produits de rencontres, des volontés, des manifestations des volontés des États. Et beaucoup des règles, des nouvelles règles, sont les résultats des violations des règles antérieures. C'est-à-dire que pour créer une nouvelle règle coutumière, les premières étapes, la première manifestation de la pratique des États, ça sera des premières violations. Si ces violations prennent de l'ampleur et qu'on a une pratique suffisamment convergente avec ce qu'on appelle l'opinion juris, les sentiments qu'il s'agit désormais d'une règle, pour avoir une nouvelle règle coutumière dérogatoire à celle qui existait auparavant, Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça va être les États qui créent cette nouvelle règle coutumière.
D'autant que là, on dépasserait le droit coutumier, ce serait inscrit noir sur blanc dans un traité de paix entre deux pays.
Alors, en l'occurrence, oui, mais cela ne serait pas suffisant. Ce n'est pas parce que deux États décident d'imposer un péage dans un des droits internationaux que le droit coutumier, le droit de passage en transit libre pour tous les États peut être modifié.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée de l'Iran. Oman a déjà dit, nous, on ne fera pas payer. Mais Donald Trump, dans le cadre des négociations, a dit, ah bah, attendez, on pourrait peut-être partager l'argent entre Iraniens et Américains. Il y a beaucoup, je cite les propos de Donald Trump, il y a beaucoup de big money à se faire. Si les États-Unis et l'Iran décidaient que c'est une des voies de passage pour arriver à un traité de paix, pour le coup, ça serait appliqué.
Oui, mais ça serait appliqué envers qui ? C'est un traité international, c'est toujours soumis au principe de l'effet relatif. Ça veut dire qu'il n'est juridiquement contraignant et opposable qu'aux États parties. Donc, un traité bilatéral ne peut pas créer des obligations opposables à des États qui ne sont pas parties au traité. Donc, si on imagine un tel traité qui met en place un tel péage, finalement, tout dépendra de la réaction de tous les États tiers. Soit vous avez des vagues de protestations qui montrent que les États restent attachés à la règle coutumière du droit des passages en transit et qu'ils interprètent ces péages comme une violation du droit des passages en transit.
En gros, comme une rançon.
Exactement. Et dans ces cas, la règle coutumière demeure telle qu'elle, rien n'est sans, et on a deux États qui violent le droit international de la mer et que les autres États dénoncent cette violation. Soit, au contraire, vous avez tous les États qui se disent « Ouf, heureusement, au moins une solution a été trouvée » et qu'ils se mettent à se rendre opposable cette règle du péage.
Et dans ce cas,
on peut imaginer une règle soit spécifique aux deux trois d'Hormuz coutumière, soit plus large encore, qui modifie ce qu'on savait jusqu'à maintenant.
Ce que j'entends de votre réponse, c'est que si on devait en arriver là, le détroit d'Hormuz et d'une façon générale le golfe Persique deviendrait une zone de non-droit maritime.
Non, on aurait une modification aux règles qu'on connaît jusqu'à maintenant, aux règles générales. On aurait ce qu'on appelle une lex specialis, donc un droit spécial, applicable et praticable uniquement parce que les États souverains l'acceptent et y consentent dans ces détroits d'Hormuz. C'est-à-dire, quand on change les droits, ce n'est pas que le droit ne s'applique plus, c'est que le droit est différent.
Encore une question sur le blocus naval des Américains. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que les Américains font ça. Ils ont fait ça pour le Venezuela, ils font ça pour Cuba. Et pourquoi je prends ces deux exemples-là ? D'abord parce que je sais que vous connaissez bien ces sujets-là, mais aussi parce que ce sont deux États avec lesquels les États-Unis officiellement ne sont pas en guerre. Avec l'Iran, ils sont en guerre, mais pas avec le Venezuela ou Cuba. Et pourtant, ça s'applique. Donc, c'est légal ou c'est pas légal le blocus dans ces cas-là ?
Eh bien, vous en parlez tout à l'heure du manuel de Saint-Rémy qui codifie les règles du blocus naval. Dans son champ d'application au tout début, on voit que c'est en temps des conflits armés, des conflits navals. Donc, en dehors d'un conflit, ce type de blocus ne peut pas être conforme au droit de la mer.
Vendredi dernier, le Royaume-Uni et la France ont réuni une trentaine de pays non belligérants, prêts à former une coalition pour participer à la sécurisation du détroit d'Hormuz. Alors, on a compris que c'est une initiative purement défensive qui n'interviendrait qu'une fois les hostilités terminées dans le golfe Persique entre l'Iran et les États-Unis, entre l'Iran et les pays du Golfe. Quelles pourraient être les modalités d'une telle coalition, le cadre juridique ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, un mandat des Nations Unies pour que ça puisse voir le jour ?
Ça dépend de ce qui serait sa mission exacte et ce qui serait surtout les possibilités, enfin les modalités déployées. Est-ce que ça implique un raisonnement ? Est-ce que ça implique un recours à la force, un usage de la force possible ou pas ? Et les cadres juridiques les plus sûrs, ce serait effectivement de passer par les conseils de sécurité des Nations Unies, ce qui ne serait pas inédit dans un cadre complètement différent mais pertinent comme parallèle. La lutte contre la piraterie moderne au large des côtes somaliennes en début des années 2000, quand on a réalisé qu'il ne s'agissait pas de la piraterie traditionnelle parce qu'elle n'avait pas lieu en haute mer, mais dans les eaux territoriales somaliennes, il y a eu une série de résolutions du Conseil de sécurité qui a permis précisément d'intervenir à des coalition d'États et d'intervenir au large des côtes somaliennes pour lutter contre les phénomènes de la piraterie
On peut faire référence aussi à la mission Aspides en mer Rouge, février 2024, lancée par l'Union européenne pour se protéger des attaques éventuelles des Houthis dans cette partie-là, sur les navires commerciaux. On pourrait imaginer quelque chose de similaire ?
Tout à fait, oui. Encore une fois, quand il s'agit d'usage des forces en mer, soit on va se tourner vers les règles codifiées par les règles coutumières codifiées par la Convention des Nations Unies, qui prévoit des hypothèses très spécifiques d'un raisonnement et des pouvoirs des polices, piraterie, transport d'esclaves et autres cas similaires. Soit on va se tourner vers vraiment les règles d'engagement d'usage de la force en réponse à un usage des forces intérieures. Et dans ces cas, on va avoir des possibilités telles que celles que vous évoquez.
Mais alors, quand j'ai vu cette coalition de volontaires se mettre en place, d'abord, ça m'a fait penser un peu à la coalition des volontaires en Ukraine. On voit bien que ça n'a pas un très, très grand succès. Puis surtout, je me suis dit, mais soit les hostilités continuent, dans ce cas-là, cette mission de sécurisation, elle ne peut pas voir le jour. Soit les hostilités dans le Golfe Persique s'arrêtent, et dans ce cas-là, les bateaux commerciaux qui vont reprendre leur trajet et franchir le détroit d'Ormuz n'auront plus besoin d'escorte. Donc, est-ce que c'est fait pour rassurer les armateurs, les pays qui font commerce dans le Golfe Persique ? À quoi ça sert finalement ?
Là, on atteint les limites de ce que j'ai pu apporter d'utile dans la conversation. Je pense que vous avez, pour le coup, une vision beaucoup plus claire que moi et que les hypothèses que vous avancez me semblent tout à fait crédibles. Mais en tout cas, on est en train de s'éloigner du droit pour passer à des considérations plus stratégiques et plus politiques.
Parce qu'il faut comprendre que ce qui se passe dans le golfe d'Ormuz, évidemment, dans le golfe persique, au niveau du détroit d'Ormuz, évidemment, ça a renchéri les primes d'assurance. Ça inquiète les armateurs, et donc cette idée de sécuriser, ça peut permettre de les rassurer pour que les bateaux puissent à nouveau naviguer pour moins d'argent qu'ils ne payent aujourd'hui à ces compagnies.
Et c'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure les parallèles avec Somalie et la lutte contre la piraterie qui a véritablement permis de rétablir le commerce maritime dans cette partie du monde, parce que c'était précisément la même idée, réassurer les armateurs, répermettre au commerce maritime de reprendre son ampleur.
Niki Aloupi, mission remplie, 30 minutes. On a compris tout ce qui se passe dans le golfe d'Ormuz. Quid Juris, merci beaucoup. Quid Juris, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible évidemment sur toutes les plateformes, sur le site du Club des Juristes, sur la plateforme de notre partenaire BFM et bien sûr sur toutes les plateformes de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 107e épisode de Quid Juris. Bonne semaine à tous.